Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy z Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En ce dimanche 25 avril, le Portugal fête la révolution des œillets de 1974. Et pour la première fois de leur histoire, les Portugais ont vécu plus longtemps en démocratie que sous la dictature salazariste. Le miracle portugais, conduit par une improbable coalition de gauche baptisée Geringonça, en français on dirait le machin, le bidule. Bref, le miracle portugais s'est enlisé avec la pandémie du Covid, particulièrement meurtrière lors de la deuxième vague de février. Avec les touristes qui ont déserté le pays, l'économie s'est effondrée et le chômage menace de s'envoler. Témoin d'un certain désenchantement, la poussée de l'extrême droite lors de la récente élection présidentielle a mis fin à l'exception portugaise en Europe. Il y a désormais un parti populiste et xénophobe solidement implanté au Portugal. Alors, le Portugal reste-t-il l'Eldorado plébiscité par les Européens, alors que Lisbonne assure en ce moment la présidence tournante de l'Union Européenne? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints dans le studio 21 de RFI, ou tantôt par téléphone, bien pandémie oblige. Bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po Paris, co-auteur de Histoire du Portugal aux éditions Chandelle, et puis d'un autre livre, Histoire du Portugal contemporain.
Portugal contemporain, dont une nouvelle édition sortira dans quelques semaines à la rentrée de septembre.
Actualisé
avec un dernier chapitre entièrement refait.
Alain Navarro-Pedro, bonjour, botard.
Bonjour ou boa tarde.
Vous êtes journaliste portugaise à Paris et j'ai eu plusieurs fois le plaisir de vous accueillir dans cette émission. Antonio Costa Pinto, bonjour, boa tarde.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut des sciences sociales à l'Université de Lisbonne. Merci d'être en ligne de Lisbonne. Et comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, cette semaine, ce dimanche, avec Vincent Baroche. Alors Yves Léonard, ce 25 avril 2021 n'est pas tout à fait un 25 avril comme les autres, puisque pour la première fois, comme je le disais dans mon introduction, les Portugais fêtent aujourd'hui 47 ans de démocratie ininterrompue, à comparer aux 46 ans qu'a duré la dictature salazariste.
Oui, effectivement, une longue présence de Salazar au pouvoir, depuis son arrivée au pouvoir comme ministre des Finances en 1928, et puis la date du 25 avril 1974, qui est celle du renversement du régime, mais lui-même, Salazar, était mort quelques années plus tôt, au mois de juillet 1970, donc une très longue dictature.
Il avait un successeur, il a eu un.
Il avait un successeur, Marcelo Caetano, qui a donc pu gouverner le Portugal après son effacement politique à Salazar, au mois de septembre 1968, et il a été renversé, donc Caetano, le 25 avril 1974. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu charnière, puisqu'on est en train de basculer avec cette démocratie solidement enracinée dans une nouvelle phase, un temps long de l'histoire, mais avec de nouveaux enjeux, de nouvelles interrogations, bien sûr.
Qu'on va évidemment essayer de mettre en évidence au cours de cette émission. Alain Navarro-Pedro, que représente encore aujourd'hui le 25 avril pour les Portugais?
Est-ce que pour la jeune génération, ceux qui sont nés après le 25 avril, ça veut dire encore quelque chose de très profond? Ils n'ont connu que la démocratie avec toutes ses failles au Portugal, que l'apprentissage de la démocratie, que l'enterrement aussi du souvenir du salazarisme et de, je dirais presque, le déni du légat du salazarisme dans notre société, dans la façon dont nous sommes façonnés, je dirais presque dans un terme un peu tabou, mais dans notre identité. Je rencontre parfois des jeunes qui ne veulent même pas en parler, qui ne veulent même pas le savoir, et qui pensent qu'ils sont très européens, très très comme les jeunes allemands, ou les jeunes polonais, ou les jeunes anglais, ou français, mais qui ne le sont pas, et qui ne savent pas tout ce qui leur vient du temps d'avant, et tout ce qui leur a été donné par le 25 avril. Et je trouve ça très dommage dans notre société, parce qu'on ne peut pas vivre dans le déni.
Antonio Costa Pinto, vous partagez le point de vue d'Ana Navarro-Pedro, c'est-à-dire que ça représente évidemment quelque chose de très important le 25 avril 1974 pour les Portugais, à condition qu'ils soient un petit peu âgés. Les jeunes s'intéressent beaucoup moins à cette date, évidemment, plus qu'importante dans l'histoire du Portugal.
C'est pas facile à dire. En tant que politologue, je fais confiance aux sondages, aux études d'opinion. Et à vrai dire, le 25 avril, c'est encore au Portugal, plus de 40 ans après la transition démocratique, quelque chose qui est vu positivement par tous les secteurs de la société. Ça veut dire même les jeunes qui n'ont pas évidemment vécu le 25 avril, etc., qui sont plus aliénés de la vie politique, de la participation politique, etc., ils sont plutôt pour. Ça veut dire ceux qui donnent une réponse négative vis-à-vis démocratie versus autoritarisme et salazarisme sont très peu dans la société portugaise. C'est d'ailleurs à cause de ça, je crois, que même le petit parti de droite radicale populiste ne fait pas du salazarisme quelque chose de... enfin, ils n'activent pas politiquement le salazarisme.
Alors,
pour terminer, parce que le salazarisme n'est seulement pas associé à la dictature, c'est aussi associé au retard.
On va évidemment
la société portugaise.
On va évidemment revenir sur l'irruption de ce parti d'extrême droite. Comment ça se fait un 25 avril à Lisbonne? On défile dans la rue, il y a des drapeaux, il y a des œillets puisque c'était la révolution des œillets.
Oui, les commémorations officielles, n'est-ce pas, à l'Assemblée de la République, au Parlement, et après la manifestation populaire dans le centre de Lisbonne.
Alors en tout cas, il y a un paradoxe ou une ironie de l'histoire. C'est au moment où le Portugal fête l'enracinement de la démocratie dans le pic qu'un parti ne reniant pas tout à fait la politique fascisante de Salazar fait irruption dans la vie politique portugaise. Nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Vincent Barros.
Bonjour Daniel.
Vincent, vous êtes le correspondant de Courrier International à Lisbonne. Alors ce parti d'extrême droite s'appelle Chega, en français on pourrait traduire par « assez » ou « ça suffit ». Il est dirigé par un ancien journaliste sportif de 38 ans, André Ventura. Il a obtenu 12% des voix lors de l'élection présidentielle de janvier dernier, mettant fin ainsi à l'exception portugaise, puisque le Portugal était le seul pays en Europe à ne pas avoir un parti d'extrême droite.
Oui, c'est un tout jeune parti qui a été créé lors des européennes en avril 2019 et qui a connu depuis une ascension fulgurante. André Ventura, son leader, un juriste de formation, a été élu seulement 6 mois plus tard député lors des législatives remportées par la gauche. Le retour de l'extrême droite au Parlement, c'est quelque chose qu'on n'avait alors plus vu depuis la fin de la dictature salazariste. Mais le vrai tour de force de Chega est survenu lors des dernières élections présidentielles en janvier, remportées par le président de centre droit, le populaire Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura, lui, a terminé troisième en obtenant un score spectaculaire de presque 12%, juste derrière la dissidente socialiste Ana Gomes. C'est un fait aujourd'hui, Chega occupe une place centrale au sein de la politique portugaise. Les cartes pourraient d'ailleurs être rebattues dans quelques mois lors des municipales début octobre.
Et dimanche dernier, Vincent, on a vu des centaines d'électeurs et de sympathisants de Chega protester dans les rues de Lisbonne. Alors pourquoi cette manifestation ?
Eh bien pour protester contre la demande d'interdiction qui vise le parti, une interdiction réclamée par la socialiste Ana Gomes, qui a saisi la justice. Elle estime que Chega défend des idées xénophobes en contradiction avec la constitution portugaise. André Ventura, lui, se présente comme un candidat anti-système face à un régime corrompu. Il aime susciter la polémique. Durant la pandémie, il a par exemple défendu un plan de confinement sanitaire spécial pour les communautés roms. Les électeurs de son parti, eux, sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Pour la liberté d'expression, contre la corruption, pouvait-on lire sur leur pancarte dimanche dernier, ou encore « Nous résisterons jusqu'au bout ». Dans les colonnes du journal de Negocios cette semaine, l'éditorialiste Camilo Lourenço estimait que c'est une bêtise de vouloir interdire Chega. Même si ce parti est mis hors la loi, estime-t-il, sa base d'électeurs restera et une autre formation du même calibre émergera.
Merci Vincent Barros à Lisbonne, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, qu'est-ce qui explique, Yves Léonard, cette poussée soudaine de l'extrême droite, donc 46 ans après la fin de la dictature salazariste?
C'est toujours pareil. Rétrospectivement, on trouve un certain nombre d'explications assez rationnelles. Lorsque l'événement est arrivé, c'est-à-dire en gros en 2019 avec l'élection au Parlement et puis cette campagne des présidentielles, il y a eu une espèce de soudaineté, de sidération en 2019, d'où d'ailleurs toutes les prises de position qui ont été faites. Alors si on regarde avec le recul et ce regard sans sans tomber dans l'illusion rétrospective, mais il y a plusieurs éléments explicatifs. D'abord, une toile de fond politique qui est et qui a été accentuée au moment de la présidentielle, qui est un peu la recomposition, les interrogations qui concernent l'évolution de la droite portugaise, des droites portugaises. C'est-à-dire qu'on a là, depuis 2015, et que la droite et ses composantes sont dans l'opposition, des interrogations sur une crise de leadership à la tête notamment du principal parti de centre-droite, droite, le PSD. Un autre parti traditionnellement allié et souvent associé au pouvoir, le CDS, qui est en pleine perte de vitesse, et un électorat qui a été capté assez fortement par justement Chega et Ventura. En toile de fond, alors, donc cette crise un petit peu d'interrogation sur le devenir de la droite au Portugal. Ensuite, un carburant qui est assez classique des droites radicales populistes. Ça a été rappelé dans le reportage de Courrier International, mais tout ce qui entoure la corruption ou ce qui est perçu comme tel. Et là, c'est un carburant qui est assez actif au Portugal ces dernières années. Ensuite, il y a le contexte international aussi qui fait que aux portes du Portugal, un peu partout en Europe, il y a des partis assez similaires, assez comparables, et dont s'inspirent d'ailleurs André Ventura et Chega, que ce soit Salvini en Italie, d'une certaine manière, même s'il y a des nuances avec Vox en Espagne, d'autres à travers le monde, Bolsonaro au Brésil, dont se réclament à certains moments Chega et Ventura.
Sans oublier Marine Le Pen qui a participé à la campagne présidentielle d'André Ventura.
Oui, qui est venu en janvier rendre visite. Alors, c'est peut-être pas d'ailleurs à proprement parler au départ cette famille politique, enfin c'est la famille politique, mais c'est peut-être pas la personnalité de référence pour Ventura au départ, qui se revendiquait ouvertement plutôt de Salvini, hein, et de ce qui se passe en Italie. Et puis, il faut le noter aussi, il y a tout ce fond donc de recomposition de la scène politique, de crise de leadership à droite, et le phénomène de l'élection présidentielle qui a attiré l'attention, parce que c'était une élection aussi qui était un peu, on pourrait dire, joué d'avance, c'est-à-dire avec un candidat qui était élu même avant de se représenter et qui, à droite, a laissé aussi un espace assez important. Donc voilà, ce sont tous ces éléments. Et puis, bien évidemment, une crise sociale, un certain nombre de ressentiments, c'est le discours anti-système que met en avant Chega, et tout un fonds mobilisé autour des droites radicales avec des fonds communs. Alors Antonio Costa Pinto rappelait à juste titre que sur l'activation du fonds salazariste, c'est effectivement quelque chose d'assez à nuancer fortement, parce que lui-même Ventura a déclaré à plusieurs reprises que Salazar, finalement, bon, il a fait des choses, mais il a fait aussi des... Il nous a fait perdre du temps, en gros. Il nous a fait prendre du retard. Enfin, il l'a déclaré à plusieurs reprises. Et il ne s'est pas mis trop en avant sur l'évocation du personnage Salazar. On pense notamment à lors du 50e anniversaire, si on peut dire, du décès de Salazar en juillet dernier. Il est resté en retrait en juillet de 2020 là-dessus. Donc, il active avec beaucoup de... Il utilise tout un fond, toutes des références, à toute une mythologie, à une histoire nationale, à la grandeur du pays, les 8 siècles d'histoire. Donc ça, c'est un fond assez salazariste. Après, d'abord, il l'adapte, il le modernise à l'ère des réseaux sociaux et des algorithmes. Et là-dessus, il a un certain savoir-faire. Et surtout sur l'argument, mais qui est à double tranchant, de la modernité économique.
Alors, on a perdu Nuno Severino Teixeira. J'espère qu'on va le retrouver au cours de l'émission. Ana Navarro Pedro, est-ce que vous diriez que le parti, donc Chega, va s'enraciner dans le paysage politique portugais?
Il est difficile à dire parce qu'il est, il est une image miroir de ces partis populistes qui arrivent au pouvoir en Europe et qui, assez vite, on le voit, déçoivent aussi, comme en Italie. Mais vous savez, il correspond à quelque chose que les Portugais souhaitaient. On parlait tout le temps du miracle portugais, du fait qu'on était vacciné contre les systèmes d'extrême droite à cause de presque un demi-siècle de dictature. Mais non, je disais toujours qu'il y avait surtout un manque d'offres. Chega est venu combler ce manque d'offres et il a trouvé sa demande. Un des éléments qu'on plus important dans ce parti, dans de son succès, c'est certainement sa xénophobie, je dirais même son racisme anti-gitan, son racisme, sa xénophobie orientée vers les immigrés de pays plus pauvres, et qui prend assez vite dans une partie de la population, celle qui lui donne son vote. Par exemple, pour rejoindre ce que je disais au début sur le déni ou la non-volonté de regarder le passé, le légat du salazarisme dans notre société actuelle, les Portugais se croient non racistes. Les Portugais disent « nous ne sommes pas racistes ». Et bien, les Portugais, évidemment, une partie des Portugais ont des degrés différents de xénophobie et de racisme, comme dans tous les autres peuples, et ne pas le croire conduit peut-être à une explosion encore plus grande et plus rapide d'un parti comme Chega. Aura-t-il les moyens de s'enraciner durablement? Tout dépend de la récomposition de la droite au Portugal, dont Yves Léonard a fait un résumé très pointu.
Antonio Costa Pinto, alors est-ce que cette évolution de l'extrême droite au Portugal peut remettre en cause le fameux geringonça à portugaise, comme on dit, c'est-à-dire cette cohabitation portugaise avec un président de droite très populaire, Marcelo Rebelo de Sousa, un premier ministre socialiste Antonio Costa, soutenu par des partis d'extrême gauche, d'où le fameux geringonça, ce système, ce truc, ce bidule un peu incompréhensible et qui ne marche qu'au Portugal, hein, qui ne marche pas en France, par exemple.
Alors, quand on observe l'évolution des partis politiques, n'est-ce pas, du système de partis au Portugal, il y a évidemment un trait, à mon avis, très important, c'est le suivant. Les deux grands partis, le Parti socialiste centre-gauche et le Parti social-démocrate centre-droite, ont survécu systématiquement aux crises des systèmes de partis. Quand on compare évidemment avec l'Europe, enfin avec l'Espagne, même avec la France, avec l'Italie, l'Allemagne, etc., la Suède, l'Hollande, etc., on observe que les deux partis encore dominent, entre guillemets, la situation politique. Mais la droite, ce point de vue de la représentation politique, était comme que surgelée depuis la transition, n'est-ce pas, avec deux partis. Avec deux partis, ils étaient pratiquement, jusqu'à très récemment au pouvoir, en général en coalition, n'est-ce pas, le petit CDS avec le parti de centre-droite PSD, tandis qu'à gauche, le Parti socialiste était pratiquement toujours condamné à des gouvernements minoritaires parce qu'il avait toujours des tensions avec les communistes et encore avec ce parti, le bloc de gauche. Donc la geringonce a été la réponse finalement et très modeste, hein, parce qu'on ne parle pas de coalition, on parle des accords parlementaires, d'une stabilité d'un gouvernement socialiste à gauche avec l'accord du Parti communiste, en partie en stagnation, lire déclin, et le bloc de gauche qui arrive à peu près toujours autour des 10%, 9%, 8%. Donc, je dirais que la dynamique de crise maintenant est à droite, parce que le Parti social-démocrate a sans doute perdu des voix pour le petit parti Initiative libérale et avec le défi du Chega. Qu'est-ce qui va se passer? Je dirais que à gauche, on ne va pas avoir des nouveautés. Ça veut dire que les socialistes auront toujours la possibilité des accords parlementaires avec ces deux partis. À droite, le problème qui se présente à la démocratie portugaise, c'est Parti social-démocrate versus Chega. Va le Parti social-démocrate faire des alliances avec Chega? Si on regarde la conjoncture régionale aux Açores, par exemple, on a un gouvernement déjà du Parti social-démocrate avec l'appui parlementaire du Chega. Donc tout ça, évidemment, va être plus compliqué à droite, surtout parce que la tendance du Chega, c'est pour l'augmentation électoral, son point électoral. Et je voulais seulement aussi souligner que, en tant que parti populiste, le droite, le SIG, la base du SIG n'était pas l'ancienne extrême droite idéologique portugaise, n'est-ce pas? Monsieur Ventura, c'est un dissident du Parti social-démocrate. Mais en tant que parti populiste de droite, il va présenter la carte raciste ou xénophobe vis-à-vis l'immigration. Mais il faut dire que l'immigration n'est pas un thème central de la société portugaise, mais la violence politique, l'ordre, les minorités. Donc ça dépend beaucoup de l'agenda politique. Mais je dirais que le SIG, il faut faire attention à ça, c'est typiquement un parti populiste de droite, dont la cohérence idéologique n'est pas, je dirais, très importante.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, le Portugal va-t-il rester cet Eldorado plébiscité par les Européens après la crise sanitaire qui a été évidemment très violente au Portugal comme presque partout en Europe? Nous sommes avec Yves Léonard, historien, enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur de l'histoire du Portugal, avec Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise à Paris, avec Antonia Costa Pinto, professeur à l'Institut des Sciences Sociales de l'Université de Lisbonne. Alors, la crise sanitaire a été particulièrement violente au Portugal. Si la première vague, celle du printemps 2020, a été bien maîtrisée, la deuxième vague au début de l'année a été très violente, très meurtrière. Alors, quel impact a eu cette crise sanitaire dans l'état d'esprit de la population? Je vous repose à vous la question, Antonio Costa Pinto, puisque vous êtes à Lisbonne et que vous avez vécu cette crise bien dans votre chair et puis dans votre pays. Quel impact a eu cette crise sanitaire dans l'état d'esprit de la population? Alors, on va laisser pour l'instant de côté l'impact économique, bien sûr, qui est très très fort, mais est-ce que les Portugais ont perçu une très grande vulnérabilité de leur pays qu'ils ne soupçonnaient pas? Est-ce qu'ils ont remis en cause l'Union européenne, ou au contraire l'Union européenne a été perçue comme très très solidaire des malheurs du Portugal? Quel est l'état d'esprit des Portugais après cette crise sanitaire, Antonio Costa Pinto?
Dans la première phase, n'est-ce pas, en 2020, les Portugais en général ont respecter au fond l'État et le gouvernement et la gestion de la crise a renforcé en fait même la popularité, imaginez-vous, la popularité du gouvernement socialiste et de la gestion politique du gouvernement de la crise. Après, petit à petit, les partis, évidemment, le petit parti populiste de droite a commencé en dissidence vis-à-vis les mesures du gouvernement. Le parti communiste a voté contre l'état d'émergence au Parlement. Et donc, l'unanimité des partis politiques a diminué, mais quand même pas beaucoup. Au même temps, il faut dire que le gouvernement a beaucoup aidé, évidemment, l'économie, mais avec, je dois souligner d'ailleurs deux ou trois divergences dans les mesures du gouvernement, surtout d'appui à l'économie. Par exemple, Air Portugal, l'appui, par exemple, à la TAP et d'autres grands compagnies. L'hypothèse de la nationalisation versus appui au secteur privé. Donc, là, oui, on a eu quand même pas mal de débats dans la sphère publique, mais je dirais qu'en général, on n'a pas observé au Portugal des mouvements, des dissidences, des mouvements révisionnistes vis-à-vis la gestion que le gouvernement a fait de la crise. Et la preuve, au fond, sont encore les sondages qui continuent à dire que les Portugais, la plupart des Portugais appuient les mesures du gouvernement vis-à-vis de l'appui à la société portugaise et à l'économie portugaise. Point important, l'Europe. L'euroscepticisme n'a pas augmenté pendant cette période de crise, même si la fameuse bazooka, comme on appelle en portugais, bazooka, n'est pas encore arrivée pour appuyer l'économie européenne affronter la crise.
Alors, Ana Navarro-Pedro, peut-être parce que le Portugal dépend plus que la plupart des autres pays européens du tourisme, ça représente environ 17% du PIB, l'économie est entrée en profonde récession. Alors, comment les Portugais voient-ils le retour à la normale, et est-ce qu'ils le voient? Est-ce que petit à petit le pays refait surface? Il y a je crois déjà un léger déconfinement. Qu'est-ce qui est ouvert, fermé? Est-ce que le pays espère de nouveau une bonne saison touristique et puis le retour des Européens qui ces dernières années ont plébiscité le Portugal? Est-ce qu'ils sont attendus cet été?
Évidemment. Vous savez, vous avez dit 17%, je crois qu'on pourrait même dire que ça dépasse les 20% la part du tourisme dans le PIB portugais. Puis notre économie est aussi extrêmement dépendante des exportations et de produits à faible valeur ajoutée. Donc les deux tiers de notre économie dépendent de l'extérieur, et du tourisme et des ventes à l'extérieur. Donc évidemment qu'il y a un besoin vital d'une reprise des déplacements, de l'arrivée de touristes, pour faire repartir l'économie. Il commençait à voir, les gens ont beaucoup vécu sur leur aussi, sur leur, il y a eu des aides sociales, mais pas comme en France, ni de loin ni de près. Et donc les gens commencent à être à bout de souffle économiquement, et on tient le coup, on est habitué à serrer les dents et aller de l'avant. Là, ils commencent à avoir et une fatigue avec les mesures sanitaires et un désir de normalité très grand. Et ce désir de normalité passe par effectivement une reprise économique avec les secteurs qui nous permettent actuellement de vivre. Nous l'avons vécu à Noël, cependant. Le gouvernement a relâché un petit peu les mesures contraignantes de la politique sanitaire à Noël. Il a permis la réunion des familles et l'arrivée de touristes. Et c'est après que nous avons payé le prix avec cette vague terrible de début d'année. Donc les Portugais savent tout cela, mais vous savez, contre les fêtes, c'est-à-dire on a besoin un besoin vital de l'arrivée d'un agent frais avec de l'extérieur, eh bien tout le reste passe un petit peu à la trappe.
Antonio Costa Pinto, le tourisme génère des emplois généralement peu qualifiés. Est-ce qu'il y a une réflexion sur une évolution possible du modèle économique portugais? Alors, est-ce que le reste de l'économie a bien résisté, par exemple? Et j'ai lu que le Portugal était devenu un grand producteur de vélos, autant dire l'un des outils en vogue de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a une réflexion sur, en tout cas les Portugais ont profité pour réfléchir sur leur modèle économique qui est basé beaucoup sur le tourisme, qui crée évidemment des emplois peu qualifiés?
Beaucoup. D'ailleurs, dans cette année, en fait, depuis septembre 2020, le gouvernement a ouvert un débat national sur, pas seulement sur comment utiliser les fonds de l'Union européenne, n'est-ce pas, pour la récupération économique, et lié à ça, comme en débat sur la stratégie de développement économique au Portugal. Et en fait, on peut dire que on a quand même aujourd'hui un secteur exportateur déjà plus modernisé, n'est-ce pas, même au niveau de chaussures et d'autres industries, surtout situées dans le centre nord du pays, qui sont finalement adaptées à la fin de la stratégie d'une main-d'œuvre pas chère, avec très peu d'innovation technologique. Et donc, ça commence sans doute, je crois, à se développer. Et en même temps, le Portugal est bien, et je crois le gouvernement portugais et les élites en général sont bien conscients de la dépendance du tourisme. Mais je voulais souligner que le grand problème du tourisme, je crois, c'est pas seulement, évidemment, que le tourisme est basé dans une main-d'œuvre, on sait exactement, et des salaires très bas, mais aussi Lisbonne, Porto, Braga, dans les derniers 10 ans, souffrait toute une dynamique d'innovation, pas seulement liée au tourisme, aussi liée à la fixation au Portugal de pas mal de communautés immigrées, si j'ose dire, françaises, italiennes, brésiliennes, etc., asiatiques, etc. Une dynamique, par exemple, de développement d'une stratégie de restauration et d'autres dimensions plutôt modernes qui vont souffrir beaucoup, qui ont déjà souffert, une belle partie de cette dynamique urbaine associée au développement du tourisme va certainement souffrir beaucoup, même si les touristes seront de retour enfin, au mois d'août, au mois de septembre. Au même temps aussi, il y a eu, mais on verra, on va voir, n'est-ce pas, parce que pourquoi je suis très sceptique sur ces modèles de développement? Parce que on a assisté au même débat quand le Portugal est entré dans l'Union européenne aux années 90. Et à la fin, à part les infrastructures, on n'a pas observé les résultats d'une stratégie national de développement. Ah oui. On dépend beaucoup de l'économie internationale et on va continuer à dépendre de cette dynamique.
Ah oui, à l'époque, on disait qu'il y avait le Portugal était parcouru par des autoroutes qui allaient dans tous les sens, mais qui ne menaient nulle part. Hein. Je me souviens de cette polémique qu'il y a eu au Portugal. Alors Yves Lénoir, c'est en tout cas dans ce moment de crise et d'interrogation que le Portugal préside tout ce premier semestre 2021. Le Portugal assume et assure la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, je demande à un Français très lusophone, vous êtes peut-être le plus portugais des Français. En tout cas, on a toujours l'habitude de dire que le Portugal, c'est le bon élève de l'Europe. Ça énerve un peu les Portugais, je demande ça à un Français très, très lusophile.
Bah oui, parce que c'est une expression effectivement qui a été beaucoup employée dans les années, au début des années 1990, au moment notamment de la première présidence de l'Union européenne en 1992, et c'était fait pour désigner, enfin c'est toujours pareil, le rapport du maître à l'élève aussi, et on décernait un satisfecit et un bon point en quelque sorte à cet élève studieux, appliqué, qui faisait tout pour entrer dans les standards européens de l'époque. Donc ça a un côté, à la fois il y avait une forme de reconnaissance, mais une reconnaissance un peu condescendante, d'où l'irritation que moi, en tant que Français, j'éprouve aussi quand j'entends cette phrase, parce qu'elle a été répétée en boucle et finalement, elle a quelque chose d'assez condescendant. En revanche, bon, sur la question du rapport à l'Europe, effectivement, pour le Portugal, c'est quelque chose de très très important et qui fédère, qui rassemble une grande partie de la classe politique et notamment les deux partis phares, hein, le Parti socialiste et le Parti social-démocrate, qui sont très européistes ou européens.
Il faut toujours avoir en tête que le Parti social-démocrate,
c'est le parti centre-droite. Voilà, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le parti de droite, centre-droite, mais qui a alterné au pouvoir depuis le début des années 1980. Et ces deux partis, donc, ont fait le choix de l'Europe. L'Europe est avec nous, disait le Parti socialiste en 1976 pour sa campagne, et le Parti social-démocrate était à l'unisson, et les deux partis ont toujours fait assaut d'européisme militant. Alors, il y a eu plusieurs présidences de l'Union européenne, il y en a une en 2000, il y en a une autre en 2007, et donc c'est la quatrième que le Portugal assure actuellement, dans un contexte qui est extrêmement compliqué et avec beaucoup d'attentes parce que ça a été préparé de longue date, à tel point d'ailleurs que ça a même un petit peu pesé sur, on le voit bien au moment des élections législatives de 2019, des présidentielles tout récemment, on sentait bien que les priorités c'était réussir, être au rendez-vous du premier semestre 2021 pour réussir cette présidence de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte dépendance du Portugal. On disait, au moment de la Révolution, dans les mois qui ont suivi, l'Empire est mort, vive l'Europe, mais qui était aussi une manière, une substitution aussi, une manière de basculer dans un autre univers et de se tourner cette fois-ci résolument vers le continent européen. Donc on a une très très forte attente de la part des autorités et une volonté justement de réussir, pas simplement d'un point de vue administratif, on pourrait dire, technocratique, mais d'essayer de proposer politiquement des perspectives et de marquer l'histoire de ce premier semestre 2021 avec des initiatives dont notamment les rencontres, il y en a une ces jours-ci concernant les rapports entre Afrique et Europe sous l'angle des investissements verts, de l'économie verte, et puis surtout le fameux sommet social européen à Porto au début du mois de mai.
Dans une semaine, hein, à peu près dans dans une semaine. Alors c'est vrai que les priorités de la présidence portugaise, c'est effectivement une économie d'Europe plus verte, une économie numérique. Elle est vraiment dans le fil de l'histoire des décisions européennes. Et puis évidemment la mise en place de ce plan de relance de 750 milliards d'euros qui traîne un petit peu. Alors chaque pays doit déposer un dossier auprès de la Commission européenne et les Portugais ont été les plus rapides. Ils ont déjà déposé leur dossier pour pouvoir bénéficier de prêts, avec évidemment une volonté à Ana Navarro Pedro très portugaise finalement de mettre en œuvre ou en tout cas de renforcer l'Europe sociale. Alors quand le Portugal veut renforcer l'Europe sociale, ça veut dire quoi, Ana Navarro Pedro?
Très bonne question, parce que sur le plan social, le Portugal n'est vraiment pas au niveau d'un pays comme la France, par exemple, ou comme l'Allemagne, voire l'Italie. Est-ce que une harmonisation sociale en Europe, qui n'arrivera pas de sitôt, serait le but des Portugais? Non, je pense que, en réalité, si vous parlez avec les dirigeants portugais, le grand objectif de cette présidence au départ était de renforcer le lien transatlantique. Le Portugal est un pays atlantique et un pays qui croit profondément et qui vit profondément le lien transatlantique. Évidemment que c'est un peu dépassé avec l'évolution diplomatique des États-Unis en ce moment, mais il y avait une grande mobilisation de la part de la diplomatie portugaise dans ce sens. Et concernant l'Europe et tous les objectifs européens, il faut bien dire que cette épidémie, elle continue de bouleverser complètement l'agenda portugais. Et donc, concernant l'Europe en ce moment, en plus, le Portugal est entaché par certains scandales de corruption au niveau de police de frontières, etc., qui fait que, qu'on est parti toute voile dehors et qu'en ce moment, je pense qu'on essaye quand même de gérer au quotidien, plutôt.
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que toutes les réunions au sommet où les chefs d'État se rencontrent, discutent et font avancer les dossiers, ça se fait en visioconférence et c'est pas tout à fait la même chose de se parler de vive voix et de parler à travers un écran. Alors par exemple le sommet de Porto qui va se dérouler la semaine prochaine, il sera évidemment en visioconférence. Il y avait un sommet important qui était prévu entre l'Union européenne et l'Inde. Évidemment le Premier ministre Narendra Modi ne pourra pas se rendre à Porto en l'occurrence. Tout est un peu compliqué et forcément ça ternit un peu cette présidence portugaise. Alors il y a aussi Antonio Costa Pinto, l'idée de mettre en place ce plan de relance de 750 milliards. Le Portugais, encore une fois, le bon élève, il a été le premier à déposer son dossier. Est-ce que ça se met un petit peu en place ou pas?
Oui, ça se met en place, mais il faut dire qu'évidemment cette présidence de l'Union européenne ne change pas, n'est-ce pas, la balance de pouvoir, ni au fond la capacité de négociation et de décision des grands pays de l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, le Portugal comptait beaucoup, par exemple, au niveau des rapports transatlantiques avec la victoire de Biden, n'est-ce pas, de lier à la présidence portugaise une réorganisation des rapports atlantiques, n'est-ce pas, entre l'Union européenne et les États-Unis, ou même avec l'Amérique latine, pour ne pas parler de l'Afrique, le sommet avec l'Inde. Mais évidemment, ce point de vue-là, la visibilité de la présidence portugaise a été évidemment très perturbée, je crois, par la gestion de la crise au niveau de la vaccination, au niveau même de l'approbation par les parlements. Il faut dire qu'il manque encore pas mal de parlements pour finalement approuver l'appui économique. Et donc, je crois que finalement, la présidence de l'Union européenne par le Portugal ne va pas changer rien du tout.
Fondamentalement, la marge de l'Europe, si j'ai bien compris.
Symbolique, très peu.
Alors, oui. Il y a en tout cas, il y aura au cours de cette présidence portugaise le lancement d'une conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est une initiative qui est un peu portée par la France, par le président Emmanuel Macron. Alors, c'est intéressant parce que on va devoir se poser comme question dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, quelle est la place de l'Europe entre les deux grands géants géants que sont les États-Unis et la Chine. Et c'est intéressant parce que Ana Navarro Pedro nous a dit à l'instant que le Portugal était par définition un pays très atlantiste, très très lié à l'OTAN, aux Américains. Et puis c'est en même temps une des portes d'entrée de la Chine. On dit parfois que le Portugal c'est un des porte-avions de la Chine en Europe. Alors ça s'illustre notamment par le port de Sines sur la côte atlantique. C'est un grand port portugais, un port à la fois pétrolier de porte-containers. Les Chinois ont très très envie d'investir dans ce port, comme ils l'ont fait par exemple pour le port du Pirée à Athènes en Grèce. Et d'ailleurs, les Chinois ont déjà fait beaucoup d'investissements au Portugal. Il y a des banques portugaises, il y a des assurances, des compagnies d'assurance portugaises, où les capitaux chinois sont très très importants. Alors voilà, c'est un petit peu difficile. On dit toujours qu'évidemment, et c'est une réalité géographique, que le Portugal est à la périphérie de l'Europe, comme par exemple l'Estonie l'est aussi, ou la Finlande l'est aussi. Comment le Portugal se voit dans le monde, en Europe, entre la Chine et les États-Unis, Antonio Costa-Pinto? Puis je vous poserai aussi la question à vous, Ana Navarro Pedro.
Très rapidement, ce point de vue de la politique étrangère du Portugal, les rapports, l'investissement de la Chine au Portugal ne vont pas changer beaucoup. Ça veut dire que c'est vrai que la Chine a profité beaucoup, évidemment, de la faiblesse économique avec le bail-out et la crise économique portugaise, n'est-ce pas, très associée aussi à la crise des banques, surtout à la Banque du Saint-Esprit, etc. Mais en même temps, c'est vrai que la Chine a pas mal investi au Portugal, comme en Grèce, en fait, pas seulement au niveau des ports, n'est-ce pas, mais comme vous avez dit, assurance, banque, etc. Énergie, ce qui est plus sensible, beaucoup plus sensible, ce point de vue stratégique, même avec les rapports entre les États-Unis. Mais on ne peut pas dire, pas du tout, que le Portugal sera, comme par rapport aux États-Unis, comme par rapport au Brésil, comme par rapport au monde lusophone, n'est-ce pas, ça veut dire la stratégie atlantique ou atlanticiste du Portugal, rien de comparable avec la Chine. Je crois que le Portugal essaiera d'être discret et en même temps de maintenir évidemment les investissements chinois au Portugal, parce que c'est important, du point de vue évidemment de l'économie portugaise.
Ana Navarro Pedro, il y a un thème en ce moment qui revient, qui s'impose dans le débat européen, c'est l'idée d'avoir une autonomie stratégique européenne, d'avoir une souveraineté européenne. Alors, le président Emmanuel Macron parle souvent et volontiers d'Europe puissance, qui n'est pas forcément bien compris. Qu'est-ce qu'on en dit à Lisbonne de cette idée d'avoir une autonomie stratégique européenne dans des domaines aussi importants que, évidemment, la défense, mais aussi les problèmes sanitaires, les médicaments, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient fabriqués en Chine et en Inde au cours de cette crise sanitaire. Et on pourrait développer un certain nombre d'aspects, de paramètres sur le sujet. Qu'est-ce qu'on en dit? L'autonomie stratégique, ça se traduit en portugais, déjà, pour commencer?
Oui, puisque c'est de langue latine, c'est très facile à traduire en portugais. Mais voyez-vous, le Portugal vit dans sa chair, justement, ce manque d'autonomie, le manque de vision de l'Union européenne concernant sa propre puissance et ses visées idéologiques stupides de 2011-2014 où on a imposé la vente de tous les secteurs au nom du sacro-saint principe de la libre concurrence et de la concurrence loyale. Donc le Portugal a dû vendre EDP, par exemple, l'équivalent d'EDF en France, une entreprise stratégique pour la production et de l'énergie au Portugal. Ce qui est entre les mains de la Chine en ce moment, puis c'est une entreprise chinoise qui a acheté la plus grande majorité du capital, avec, je pense, le petit sultanat d'Oman, mais Monsieur Antonio Costa Pinto me corrigera si je me trompe. Et donc, une grande partie de nos joyaux et de ce qui est stratégique pour nous, mais aussi pour l'Europe, est partie entre les mains des Chinois. Je disais à l'époque, vous êtes en train de voir la ligne qui va du Portugal jusqu'à la Grèce sur l'intérêt stratégique des investissements chinois, et on me regardait en disant, bon, mais non, c'est normal, le plus offrant achète au meilleur prix. Oui, peut-être que maintenant on comprendra qu'on a eu une vision myope, de courte durée et stupide, et qui nous a peut-être privés d'un poids réel dans les grands blocs émergents de ce 21e siècle. Et évidemment, est-ce qu'au Portugal on se rend compte qu'il nous faut une armée européenne, qu'il nous faut une défense européenne? Les avis sont assez divisés, je crois. Mais c'est vrai aussi que le Portugal, notre armée, a tellement souffert faire. Nos services de défense ont tellement souffert avec la politique d'austérité qui nous a été imposée que, effectivement, ce n'est peut-être pas la priorité de réflexion en ce moment dans le pays. Mais si l'Europe avance dans le sens d'imposer à terme, et de réussir à le faire, ce qui n'est pas gagné d'avance, une véritable position stratégique, économique et de défense, de sécurité dans cette planète, eh bien le Portugal suivra le mouvement, c'est sûr.
Je me tourne vers l'historien, on est presque au terme de cette émission. Alors évidemment, le Portugal a toujours regardé vers le grand large, vers l'Atlantique, c'est le pays des grandes découvertes. Le Portugal a découvert le monde au 14e et 15e siècle. Voilà. Donc, et puis il y a eu l'adhésion à l'Union européenne et c'était une refondation complète du regard que le Portugal avait sur le monde. Alors qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? On se retrouve un petit peu avec des investissements. On regarde un peu plus loin que l'Europe. Comment voyez-vous le Portugal en Europe et dans le monde dans les années à venir?
Ça vient d'être rappelé, il y avait un certain nombre d'ambitions qui avaient été mises en avant. Il y a certainement, et ça c'est un problème récurrent, cette question de la réflexion stratégique sur le long terme. Et ça, avec le regard de l'historien, c'est pas nouveau. On se posait des questions très comparables à la fin du 19e siècle sur l'avenir et le positionnement du Portugal. Donc il y a ce déficit assurément de vision et sur le long terme et un certain nombre d'enjeux, mais voilà, ça a été rappelé, c'est un pays qui est à la fois européen et atlantique, c'est-à-dire que c'est dans cette ambivalence-là, finalement, que une grande partie du positionnement de ce pays s'est défini au fil de ces dernières années. Et on voit mal, alors derrière, on voyait bien pour la présidence européenne, on voyait bien les attentes, effectivement, côté atlantique. Derrière, le rapprochement centré, mais on voyait aussi que la présidence française souhaitait développer ce thème en 2022 de la question du rapport à l'Afrique, parce que derrière, il y a toujours cette idée de lien privilégié, incarné par ce qu'on appelle la lusophonie ou la communauté des pays de langue portugaise. Bref, toute cette tonalité qui est importante, qui renvoie à ce passé long, finalement, du Portugal, de cet geste séculaire autour de l'expansion maritime, parce que l'expression elle-même de découverte pose un certain nombre de problèmes et on le voit bien aujourd'hui, ce rapport au passé aussi colonial est extrêmement douloureux.
Qu'on n'a pas évoqué,
qui est extrêmement sensible. Tout à l'heure, on évoquait à juste titre le poids, le rôle important du racisme et de la xénophobie et ça renvoie justement à ce regard sur le temps long de l'histoire, de ce passé colonial, de la violence coloniale, de tout ce qui a entouré cette période de l'expansion, du rôle de l'esclavage, de la traite, etc. Toutes choses qui ont été un peu minorées, laissées de côté, mises sous le... On parlait de déni tout à l'heure, mais qui ont été largement mises de côté. Donc, voilà, et d'ailleurs, le Conseil européen a fait un rapport, un mémorandum, tout récemment, pour rappeler un petit peu l'importance que devaient avoir ces questions, notamment au Portugal, qui convenait de se pencher avec un souci d'approfondissement, de sérénité, mais sans faux semblant sur ce long passé colonial. Et c'est seulement à partir de là, quand ce travail aura été fait, qu'on peut imaginer un positionnement, une vision justement stratégique, enfin débarrassée de ces pesanteurs, de cette inertie et de tout ce qui renvoie à ce passé long, douloureux, et dont on voit à quel point il peut rester douloureux aujourd'hui.
Voilà, une longue réflexion que les Portugais doivent mener. D'ici là, j'espère qu'on pourra enfin retourner au Portugal, redécouvrir ce pays formidable. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Yves Léonard, Ana Navarro Pedro, Antonio Costa Pinto, réalisation Nicolas Benita, avec Vincent Baroche de Courrier International, sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, ou les applis RFI, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, et par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Esquel, que vous soyez à Lisbonne, Porto, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.